Alors d'abord, Hélène, je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée Vieillir et habiter autrement entre générations solidaires. On avait fait suivre le titre de la question « Est-ce possible ?» On verra bien donc ça ce soir. Particulièrement merci aussi à Liliane Batté qui a répondu tout de suite présente. Il y a déjà 6 mois que ça dure cette histoire. Et bien entendu aux résidents d'avoir eu l'amabilité de nous accompagner avant la soirée, mais aussi pendant la soirée. Merci de vous être déplacés. Donc si vous avez une idée à lancer dans le débat, ben vous pouvez y aller. N'importe quoi est bon.
Et dans la proposition qu'on avait par rapport à cette introduction, c'était aussi s'imaginer quand on aura, ben, comme ces dames, 88, 90, jusqu'à 92 ans même. Mm-hmm. On en a eu des personnes qui ont vécu jusqu'à 103, 104 ans en pleine forme. C'est de s'imaginer ben, comment on verrait notre maison de retraite. Alors, notre maison de retraite, c'est notre lieu de vie quand on aura un âge avancé qui fera que peut-être on aura quelques difficultés physiques, psychologiques ou autres, qui feront que, ben, effectivement, ma maison à moi aujourd'hui, est-ce qu'elle elle pourrait s'adapter à ce que je serai demain. Donc, c'est voilà, s'imaginer comment dans 40, 50, 60 ans... on vivra et où on vivra. Voilà, c'était plutôt essayer de, voilà, d'amener comme ça des infos, si vous y avez réfléchi, vous donner des mots-clés, des idées, des interrogations. Non ? Moi, je peux en dire une parce que j'ai réfléchi.
Madame Capelli dit la sécurité. Donc, le premier mot qui lui vient, oui, sécurité.
C'est vrai. C'est
voilà.
Ouais.
C'est vrai.
Bon, moi, je mets la mienne, parce que j'y réfléchis toute la journée. Ce serait ma maison modulable. Une maison modulable. Habitat modulable.
Je peux rien là-bas.
Non, je viens.
Tu viens ici. Voilà. Allez.
Ça fait peur, hein?
Le tableau blanc, la feuille blanche.
Je sais pas si. Il n'y a pas de censure, hein?
Sécurité, habitat modulable.
Monsieur, là, avec la moustache, vous avez
oui.
Quelque chose à dire? Non, je crois pas.
Avec les lunettes aussi?
Ben peut-être une maison de retraite avec moins de monde dedans, moins de personnes dedans.
Oui, c'est facile à dire. C'est pas ça, c'est les gens bien oui. Plus âgés maintenant, c'est dur aussi. C'est vrai.
On va mettre petite structure, ouais, ou ouais. Allégée, allez.
Partage.
J'ai entendu. Partage. Partage, oui.
Partage.
Ouais. Proche des amis.
Avec les amis.
Oui, que les amis soient à côté.
Ah. Ouais, mais moi, je mets les deux, hein.
Oui.
Proche et avec les amis.
Il y a quelqu'un là-bas. Il y a Léna, je crois.
Léna, oui.
La question de dépendance, indépendance.
Ouais.
Bon, je rajouterai les activités.
Juste dépendance, indépendance, en fonction de l'état dans lequel je suis, j'imagine un lieu de vie adapté. Un questionnement, oui.
D'accord.
Des activités.
Activités.
Des soins quotidiens.
Contact avec la nature.
On n'a pas le droit de parler deux fois.
Les visites.
Oui. Point d'interrogation. Visite
avec la famille, avec...
Là, vous êtes dans le cadre d'un lieu, pas forcément, chez soi. Ça rejoint ce que disait Marie sur les proches, et c'est un peu ça.
Le problème...
Le fait de... Éviter l'isolement, quoi.
Une maison où règne l'esprit famille.
Esprit famille.
De l'intimité.
L'intimité.
Le coût.
Le coût financier.
Le coût.
Le coût. Vous avez entendu le coût financier.
Pas les coûts.
Ah, oui. Pas Olivier, Denis, c'est...
Famille, esprit famille.
Une maison où règne famille.
Je vais mettre avec les proches.
Oui.
Moi aussi, pareil.
Esprit de famille.
C'est encore, je suis capable de parler, de réfléchir, la liberté de mes choix.
L'écoute. Là.
Oui.
L'écoute.
Est-ce qu'on a confiance dans les personnes âgées ou est-ce qu'on les infantilise ?
Confiance, infantilisation. Infantilisation, c'est-à-dire vous êtes encore apte à prendre des décisions, mais peut-être qu'on vous pilote un peu autrement parce que... On prend des décisions à votre place, quoi, un peu comme, comme par rapport à des enfants qu'on élève, quoi.
T'as pas mis le mot confiance.
Confiance, infantilisation, c'était avec infantilisation, c'est ça, non? Oui, confiance. Ah, sur la même ligne qu'infantilisation, confiance.
Personne âgée.
Voilà, personne âgée.
La culpabilité.
La culpabilité.
Deux lignes après.
On va pas trop limiter, mais bon, je pense qu'il y a même d'autres choses qui seront abordées. Alors ça rejoint.
Peut-être tout ça par là.
Oui.
Partage tout ça.
Oui. Intergénérationnel. C'est le côté là.
La petite Zaya de moi.
Oui, Léna.
Ça rejoint infantilisation.
Rythme individuel.
Et Léna, tu disais.
Il n'y a pas un truc là-dessus.
Le choix de mourir.
De mes choix.
On le laisse en marge, ça, hein, de la réunion ce soir, mais bon, on verra si dans la discussion ça s'aborde, mais on n'a pas trop de spécialistes non plus là-dessus qui puissent apporter. La vie du couple. Intimité, vie de couple, en bas. C'était.
Non, il y avait sous les visites.
Les visites.
Voilà.
Vie de couple. Les visites dans lesquelles nous sommes autorisés.
Lié à ça, c'est la vie amoureuse.
Oui. Sexualité.
Oui.
Là, on n'aura même pas une heure pour exploiter tout ça, c'est ça?
Voilà. Bon. Ça viendra après dans le débat. On va laisser la parole à Liliane qui va se présenter succinctement et après développer le thème pour lequel on l'a invitée.
Bon, ben merci pour l'accueil et de m'avoir invitée ce soir. Donc je m'appelle Liliane Battet et mon métier c'est d'accompagner des projets d'habitat groupé.
Est-ce que
vous m'entendez?
Voilà.
Ouais, alors là, je vais avoir du mal, hein, parce que j'ai pas une grosse voix. Donc je vais essayer.
Merci. Là, approchez-vous devant la table. Vous
avez une seconde. Mettez-vous sur la table. Donc mon métier, c'est d'accompagner des projets. Le montage juridique, financier, et je m'attache particulièrement aux aspects environnementaux des projets. Donc en fait, aujourd'hui, on doit parler de l'habitat des personnes vieillissantes. Donc c'est un vrai problème qui préoccupe des tas de gens, non seulement les personnes vieillissantes qui sont de plus en plus nombreuses dans notre pays, puisque là on est dans une période où on a le papy boom. Donc il y a plein de personnes qui arrivent en même temps et qui se posent la question de savoir comment elles vont vivre leur vieillesse, leur retraite, etc. Et c'est une question du coup que se posent les travailleurs sociaux, les communes, les bailleurs, parce qu'ils ont dans leur logement des personnes qui sont vieillissantes et qui peut-être ne peuvent pas rester exactement dans l'endroit où elles sont pour le moment. Enfin, c'est en gros une préoccupation, on va dire, assez générale, mais c'est aussi... Il y a eu des réponses qui ont été apportées. Il y a déjà un certain temps, déjà, qui ont été mises en place, sachant que le logement en France, il est vu toujours de la même façon. C'est soit de la location, soit de la propriété. C'est tout. C'est-à-dire de la propriété individuelle ou de la location dans les logements, soit privés, soit collectifs. On n'a pas d'autres alternatives à ça. Comme par exemple, on trouve en Allemagne ou dans d'autres pays d'autres initiatives qui sont des propriétés collectives, par exemple. Ça n'existe pas tellement en France, et d'ailleurs, on ne sait pas ce que ça veut dire propriété collective en France. Ça n'existe quasiment pas. Donc, il y a, comme c'est une préoccupation importante, il y a pas mal de gens qui ont essayé de s'organiser pour répondre d'une autre façon. Que ce qui est proposé pour le moment. Qu'est-ce qui est proposé pour le moment? Ce qui est proposé, c'est soit les maisons de retraite, des maisons de retraite qui sont très bien, mais qui sont très médicalisées, de plus en plus médicalisées pour plein de raisons, pour des raisons quelquefois financières aussi, parce qu'il faut réussir à accueillir tout le monde et à mettre tout le monde un peu avec du personnel, etc. Donc ça coûte assez cher aussi. Mais il y a eu un maillage du territoire assez important, puisqu'on a pas mal de maisons de retraite un peu partout, même s'il n'y a pas forcément suffisamment de lits. Et puis à côté de ça, en face de ça, on a une autre alternative qui est l'aide à domicile. Donc là, c'est très bien aussi. Il y a des personnes, donc des associations qui s'occupent de ça, qui viennent au domicile des personnes quand elles veulent rester chez elles. Mais le problème, c'est que plus les personnes perdent leur autonomie, même si elles reçoivent la visite de quelqu'un une ou deux fois par jour, même deux fois ou quelques fois plus, tout le restant du temps, elles sont toutes seules. Et donc c'est un vrai problème, puisque du coup, elles souffrent d'isolement et elles sont toutes seules. Donc entre les deux, il n'y a pas énormément de choses. Alors il y avait des foyers logements qui recommencent à être créés aujourd'hui, qui était un peu un intermédiaire, c'est-à-dire c'était, c'est toujours, chacun a son appartement individuel, donc dans lequel il vit comme il a envie, mais il y a une sécurité, donc c'est pour répondre à la question de demande de sécurité, c'est-à-dire il y a une présence qui permet, s'il y a un problème, que quelqu'un puisse intervenir, et puis il y a la possibilité de rencontrer les autres dans des salles communes, à l'occasion de repas ou de choses comme ça. Mais ces foyers, logements, ces logements-foyers sont en fait pas très nombreux, même si en ce moment, on recommence à les mettre en œuvre, puisqu'il y a une forte demande. Alors à côté de ça, il y a un grand trou et il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se penchent sur la question pour résoudre leurs propres problèmes, ou alors pour résoudre le problème de leurs parents, par exemple, parce qu'ils ont leurs parents qui sont qui sont âgés et n'ont pas forcément, ils se rendent compte que la maison de retraite, ça va peut-être ne pas être la solution parce qu'ils vont être tellement pris en charge qu'ils vont perdre leur autonomie assez rapidement. Donc ils n'ont pas envie de ça, donc ils essayent de trouver des solutions. Alors, les solutions qui... Donc je vais vous en présenter quelques-unes, mais il y en a forcément d'autres parce que l'imagination est très fertile. Tout le monde cherche des solutions et les gens ont plein d'idées. Donc, et commencent à s'organiser quand même. Donc ça donne quand même un peu d'espoir parce que je vous dis qu'on se pose ce soir la question ici. Mais il y a des tas d'endroits où cette question-là se pose également. Et donc je pense qu'il y a une multitude d'idées et d'organisations qui se mettent en place. Donc la plus facile, disons, à mettre en place, même si ça ne fait pas très longtemps qu'elle commence à apparaître, c'est la colocation. C'est des gens qui se disent bon, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on n'a pas forcément, de toute façon, on veut prévoir, on veut éviter si autant que possible la maison de retraite. Donc on va se mettre à plusieurs, donc c'est 4-5 personnes. On va louer un appartement assez grand, mais on va partager des espaces ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour lutter contre l'isolement, pour partager des frais, pour réduire les coûts des logements, puisque finalement, on va avoir un grand logement, mais divisé par... Mais là, ça c'est intéressant, puisque du coup, les gens sont ensemble, ils se connaissent, ou au moins ils se cooptent, donc ça veut dire qu'ils ont des points communs, des choses à partager. Il faut que... Le problème, c'est qu'il faut que ça se passe bien. C'est pas toujours facile de partager des espaces, en particulier... de partager la cuisine, de vivre au même rythme, de ne pas se gêner, etc. Et il y a parfois un petit peu de friction, mais bon, ça, c'est dans tous les groupes, c'est comme ça. Mais bon, il faut savoir, il faut bien réfléchir avant de mettre ça en œuvre. Il y a aussi, quelquefois, des petits problèmes qui sont des problèmes qu'on peut régler assez facilement, mais qui sont des problèmes, par exemple, au niveau de l'assurance. Qui assure ? Est-ce que c'est... une colocation de tout le monde, donc il faut que tout le monde soit bien connu par le bailleur, en fait, celui qui va louer, sinon ça pose des problèmes. Enfin bon, il y a quelques points auxquels il faut faire attention, mais bon, relativement simple et connu, on va dire. Donc bon, l'autre chose qui se met en place en ce moment, c'est des associations qui se sont créées en essayant de résoudre deux problèmes en même temps. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des personnes âgées qui sont toutes seules dans leur maison, qui commencent à être un peu trop grandes pour elles, parce qu'avant, elles avaient une famille, et puis là, elles se retrouvent toutes seules avec deux ou trois chambres. Et d'un autre côté, il y a des jeunes travailleurs ou des étudiants qui, eux, ne trouvent pas de logement parce que c'est trop cher. Le logement est très cher, et du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas accès au logement. Et donc, ils se sont dit, après tout, on pourrait rapprocher ces deux populations parce qu'elles y ont un intérêt, toutes les deux. C'est-à-dire, bon, non seulement pas au niveau du logement, d'un côté le logement, d'un côté, de l'autre côté l'isolement, mais aussi, il peut y avoir des échanges entre ces personnes. C'est-à-dire que le jeune qui va être hébergé chez la personne âgée, elle peut rendre de petits services et elle peut tenir compagnie à cette personne âgée. Finalement tout le monde s'y retrouve, la personne elle est sécurisée puisqu'elle sait qu'il va y avoir quelqu'un qui est là toutes les nuits chez elle, donc si jamais il y a un problème, elle saura que la personne sera là. Le jeune, ça peut être très bien puisque maintenant on est quand même dans un monde où les familles sont un peu éclatées et où parfois les jeunes ne connaissent pas leurs grands-parents ou n'ont pas l'occasion de les rencontrer souvent. Donc après tout, il peut y avoir des échanges qui sont intéressants et chacun peut s'apporter des choses. Alors les associations qui font ça sont très très pointilleuses et font très attention à quelque chose qui est l'inconvénient de cette solution, c'est que les personnes, le jeune et la personne âgée ne vivent pas au même rythme, donc déjà il ne faut pas qu'elles se gênent, mais surtout l'étudiant ou le jeune, enfin si, surtout si c'est un étudiant, lui il va rester un an ou deux chez cette personne mais pas plus, donc après il va falloir changer et les personnes âgées n'aiment pas tellement les changements, parce qu'il va falloir s'habituer à une nouvelle personne, ce ne sera pas pareil, etc. Ou alors, l'autre chose, un autre inconvénient où il faut être très très vigilant, c'est qu'il faut bien expliquer aux jeunes qui va habiter là, si ça se passe très bien, il peut s'attacher fortement à la personne âgée, il faut lui expliquer que ce n'est pas sa grand-mère, son parent, etc., surtout qu'il va partir après, même s'il garde des relations amicales après, pourquoi pas, mais ça existe, hein. Mais il ne faut pas que la personne âgée attende trop de cette jeune personne qui habite chez elle, parce que de toute façon, ça va avoir une fin quand le jeune va partir travailler ailleurs, etc. Donc il y a une rupture quelque part, il y a un vide après, si ça s'est bien passé, qu'il faut savoir gérer, etc. Donc ça, c'est l'inconvénient de ce type de solution. Donc, une autre solution qui se met en place actuellement, c'est des familles qui décident d'être des familles d'accueil pour personnes âgées. Donc ça répond à la question donc sur le nombre, en fait. Ce sont des personnes qui vont accueillir 2, 3, 4 personnes. Je crois que c'est limité au niveau du nombre de personnes. Ça ne peut pas être plus de 4 ou 5 personnes. Dans leur maison, et elles vont prendre soin de ces personnes tout en leur laissant leur autonomie, etc. Mais c'est comme dans une famille, en fait. C'est une famille avec des personnes âgées qui viennent de l'extérieur, mais qui du coup vont faire partie de la famille en quelque sorte, puisque alors à partir de 4 ou 5 ça devient un peu plus difficile, mais je pense que quand on a deux ou trois personnes âgés qui sont là, ça peut se passer effectivement comme ça. Alors l'inconvénient de ce type de solution, c'est la mentalité, je vais dire, des personnes qui font de l'accueil chez elles. C'est comme pour les enfants, je vais dire, ou les jeunes, hein. Si ce sont des personnes qui le font par générosité, par intérêt, humain, on va dire, ça se passe bien. Parfois, on peut tomber sur des personnes qui sont moins intéressantes, on va dire. Et donc, bon, il faut être vigilant là-dessus. Et donc, faut faire attention un petit peu, parce que ça peut être décevant de ce point de vue-là. Bon, en même temps, il y a une surveillance quand même, hein, donc voilà. Mais il y a une surveillance aussi avec les jeunes, et quelquefois on sait qu'on peut, un peu détourner les choses, donc il faut un peu faire attention. Et alors il y a d'autres projets qui se montent, qui sont des projets d'habitat partagé. Donc l'habitat partagé, c'est des groupes de personnes qui décident de créer leur propre lieu de vie, d'habitation, qui peut aussi d'ailleurs être un lieu d'activité en même temps, hein. Ça peut être uniquement des personnes âgées qui décident de se regrouper en créant carrément, par exemple, une coopérative d'habitants, c'est le projet que j'avais suivi en Dordogne. Ou alors, ça peut être aussi une coopérative d'habitants intergénérationnelle, où là, on a, ça peut être, c'est pas forcément très gros, ça peut être, disons, entre 15 logements ou un peu plus si on veut. Mais ça reste à taille humaine, et c'est le groupe lui-même qui va concevoir son espace, gérer son espace entièrement, tout seul, avec éventuellement les aides qui veulent, mais bon, et le financer en cherchant comment le faire. Donc voilà, il y a tout un... Et ça, c'est très intéressant, et ça se développe énormément, en particulier parce que non seulement il y a les personnes âgées qui ont des problèmes de logement, mais il y a également des familles avec des enfants qui ont énormément de mal à se loger. Et donc, du coup, ça répond au problème de l'ensemble de cette population. Ils vont mettre du coup en place ce qui leur manque. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait comment est-ce que vous verriez... comment est-ce que vous verriez votre habitat, pour vous, l'habitat est idéal. Parce qu'en fait, c'est un peu là-dessus que travaillent ces groupes-là pour finir, même si à la fin, l'idéal n'existe pas. Donc, il y a toujours. Mais bon. Alors, dans ces habitats groupés, il y a bien sûr des logements qui sont adaptés aux personnes, évidemment, puisqu'en plus, c'est elles qui vont les concevoir. Même si c'est de la réhabilitation, on peut très bien adapter des logements, c'est tout à fait possible de le faire. Mais elles vont aussi partager un certain nombre de choses. C'est l'idée de partage dont on parlait tout à l'heure. Et elles vont, alors, en fonction des groupes, elles ne vont pas partager la même chose, évidemment. Ça peut être donc simplement une buanderie, par exemple, parce que ça coûtera moins cher et qu'on n'aura pas besoin de l'avoir chez soi. Ça peut être une salle de réunion, une salle où on peut manger, je ne sais pas quoi. Ça peut être des chambres d'amis, parce qu'au lieu d'avoir chacun des chambres pour recevoir la famille une fois par an, par exemple, ben là, en fait, il y a des chambres, mais qui peuvent être utilisées par plusieurs. Ça peut être des ateliers de bricolage ou autres. Ça peut être des jardins partagés pour faire du... Voilà. Et en fait, il y a dans tous les projets d'habitat groupé, on a ce genre d'équipement tout le temps. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette demande ? Ben d'abord, parce que le fait de partager des espaces comme ça, en les autogérant, ça permet de réduire son espace personnel, puisqu'on a à côté d'autres espaces qu'on peut utiliser comme on veut, mais ça permet de réduire les coûts, etc. Voilà. Et puis surtout, c'est d'ailleurs le plus important, ça permet de créer des opportunités de rencontre entre les gens. Même si on a une buanderie commune, ben quand on va laver son linge, ben finalement on rencontre les personnes et on peut discuter. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est fait dans ce sens-là. C'est ça presque l'intérêt principal. Alors ça se fait souvent en ce moment. Il y a pas mal de projets qui se forment sous forme de coopératives d'habitation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'habitation ? Ça existe partout, sauf en France. C'est bien dommage. C'est donc une propriété collective, c'est-à-dire que les gens sont propriétaires de parts sociales dans la coopérative, mais en même temps ils sont locataires de leur logement qui appartient à la coopérative dont ils sont actionnaires. Donc c'est de l'autogestion et c'est un moyen impeccable pour lutter contre la spéculation foncière. C'est-à-dire qu'en fait, on va indexer les parts sociales. Les gens mettent de l'argent, mais c'est donc qu'ils vont récupérer si jamais ils partent. Mais on va dire que cet argent, c'est comme s'ils le plaçaient, par exemple, au livret A. Ce ne sera jamais plus que ça. Donc l'avantage, c'est que ça évite la spéculation foncière. C'est-à-dire que même si on est dans une zone très touristique où il y a une forte demande pour acheter la maison, le logement, le terrain où on est, les personnes qui ont mis leur argent là, on leur donnera que. Donc ça ne gagnera pas plus de valeur que ça. Ça permet justement d'éviter que les logements ou les terrains soient inaccessibles. Et puis l'autre intérêt de la coopérative, c'est que le principe des coopératives, c'est très démocratique, c'est-à-dire que c'est une personne, une voix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent et que donc on peut acheter plus de parts sociales, admettons, on n'aura quand même qu'une seule voix pour les décisions qui seront prises pour l'ensemble de la coopérative, pour sa gestion ou pour tout. Et donc c'est un intérêt quand même qui attire pas mal de monde. Donc il y a ce genre de lieux qui se mettent en place en ce moment. Alors ça peut être soit financé par les personnes elles-mêmes, soit en faisant appel à l'épargne de solidaire, soit avec des bailleurs sociaux, sachant que c'est un peu compliqué dans ce cas-là, parce que les bailleurs sociaux ont comme habitude d'allouer les logements uniquement sur le critère du revenu des personnes. Donc les gens ne peuvent pas se choisir. Et dans des petites unités comme ça, de 15-20 logements, c'est embêtant de ne pas pouvoir choisir son voisin, parce que ça peut mettre un petit peu la veille. Donc en fait, c'est un peu un projet comme ça qu'on avait monté en Dordogne. Donc c'était deux personnes âgées qui avaient des amis, qui étaient entrées en maison de retraite par anticipation pour s'habituer. Et comme c'était des amis, elles allaient leur rendre visite. Et leur rendant visite, elles ont vu qu'elles perdaient vite leur autonomie. Donc elles ont eu peur et elles se sont dit, nous, on ne veut pas ça. On veut créer notre propre lieu de vie. qu'on va gérer à notre façon. Et on va le gérer, ça va, d'abord ça va nous permettre de rester en forme le plus longtemps possible, parce que non seulement physiquement mais aussi intellectuellement, le fait d'avoir à gérer ses affaires, ça nous maintient en éveil et en forme. Donc on veut faire ça. Mais elle ne savait pas trop sous quelle forme elle allait le faire. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait pas un lieu fermé entre soi, que entre personnes âgées, même si c'était un projet de personnes âgées. Elle voulait que ça soit un lieu ouvert vers le village, en se disant, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on sert à rien. On est vieux, mais du coup, on a de l'expérience, on a des tas de choses à partager avec les autres, on a du temps pour le partager. Et donc, on peut mettre ça à la disposition de la collectivité. Et on a envie de ces échanges-là, c'est important, et c'est ça aussi qui va nous stimuler et qui va nous maintenir en forme le plus longtemps possible. Donc c'était leur volonté de faire ça. Donc elles ont choisi la coopérative d'habitation pour les raisons que je disais juste avant. Et on a travaillé pendant très très longtemps donc là-dessus. Avec je vais vous raconter donc une histoire triste, parce que ça finit mal, ça s'est pas réalisé. Mais on est allé très très loin, puisque on avait même les plans, tout le monde avait choisi son appartement, etc. Donc, si je vais vous le raconter, c'est parce que ça peut servir si jamais quelqu'un a des projets de ce type. Ça peut servir de savoir à quoi il faut s'attendre. Donc, en fait, c'est un groupe qui était périgourdin, deux personnes. Ces deux premières personnes dont je parlais, donc on s'est dit d'accord, on va travailler là-dessus. Et au bout de la deuxième séance, donc on se voyait toutes les trois semaines, tous les mois, on s'est retrouvé un grand groupe de 20-25 personnes tout de suite. Et c'était vraiment très sympa. On travaillait ensemble, on discutait, on rêvait de ce qui serait bien, de comment on pourrait faire et tout ça. Mais on a posé tous les problèmes. Est-ce qu'on a des animaux? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on va se gêner ou pas? Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous dérange? Jusqu'où on veut aller dans ce qu'on veut partager? C'est-à-dire, un jour, peut-être qu'on sera moins autonome. Comment on fait? Et si on est malade, comment ça se passe? Donc en fait, on a discuté de toutes ces questions-là petit à petit. Donc l'idée, c'était de créer un lieu de vie solidaire. Donc tout le monde s'aide, pas de personnel permanent. On fait appel aux services de proximité, mais collectivement, donc c'est plus intéressant, puisqu'on a quand même besoin d'aide. Mais on se dit qu'on va s'aider autant que possible jusqu'à la fin. Donc ça peut être jusqu'à la fin. Et puis si vraiment il y a un gros problème et que quelqu'un est très malade et ne peut pas être porté par le groupe, à ce moment-là, avec le médecin et la famille, on essaye de placer cette personne avec son accord, enfin l'accord des médecins de la famille, le moins loin possible du groupe pour continuer à garder les liens avec les autres, etc. Bon, ça c'était l'idée de base. Et puis après on a trouvé, on s'est dit bon maintenant on a rédigé la charte, tout était prêt. Donc on cherchait on cherchait n'importe quoi, un bâtiment, ça pouvait être un terrain nu, mais ça pouvait aussi être un bâtiment à réhabiliter. On a visité pas mal de choses et finalement on a trouvé un terrain dans une commune qui convenait à tout le monde, mais c'était juste avant les élections municipales. Donc je raconte l'histoire, ça peut être anecdotique, mais ça explique un petit peu comment ça peut... Donc avant les élections municipales, le maire dit « attendez ». On va attendre, donc il est réélu avec une autre équipe, c'est pas grave, mais sauf qu'il y avait une opposition quand même dans son équipe. Très bien, tout se passe bien, on dépose un dossier auprès du pays du Périgord Noir pour avoir des financements. On a des financements pour ce genre de projet, là c'était aussi bien pour les études que pour la réalisation, donc on monte tout ça. Et puis finalement, le maire, comme c'était les vacances, c'était le mois de juin, il se dit on va attendre la rentrée pour expliquer ça au conseil municipal. Mais il y a un journaliste du Monde qui passe à une de nos réunions. Il entend parler de notre projet, il se dit je vais aller voir ce qui se passe. Il va voir, il trouve ça génial, il dit je vais faire un article dans le Monde. On n'y croyait pas spécialement, mais bon. Il y a un article dans le Monde qui paraît fin juillet. Et fin juillet, du coup, ça fait comme il ne se passe rien en plein été. Du coup, on a tous les médias, la télé, la radio, les journaux, les revues, etc., qui parlent du projet alors que le conseil municipal n'était pas encore au courant. Donc ça a un peu fait la révolution dans le village. Mais nous, on en était aussi à la période où il fallait qu'on lance les études. Donc architectes, thermiciens, etc. Donc il fallait que chacun donne 1000 euros pour payer les études. Et en fait, à chaque fois qu'on passe de la période, enfin d'une phase de rêve où on se projette, on fait un projet, c'est vraiment bien, on est bien ensemble, tout va bien. Mais quand on va passer à l'acte, par exemple là, il faut payer 1000 euros pour les études, ah ben il y en a la moitié qui partent en se disant, ben non, mais je ne suis pas prête tout de suite, oui, ça m'intéresse, mais pas pour tout de suite, etc. Donc si j'explique ça, c'est qu'en fait le groupe du coup de 25 s'est retrouvé tout petit. Et à ce moment-là, on a ce problème au conseil municipal. Donc le maire nous demande de venir expliquer. Donc on en parle, on propose de faire une réunion dans la commune après pour que tout le monde connaisse le groupe. Donc on fait ça. Sauf que comme il y avait eu la médiatisation, plein de gens venaient de partout. D'Angleterre, de Monaco, de Bourgogne, de vraiment partout. Parce que c'est un vrai problème que tout le monde cherche des solutions. Et donc, si, dès qu'on parle de choses comme ça, on a tout de suite plein de monde. Donc, en fait, si je raconte ça, c'est pour expliquer que, en fait, le groupe, qui était périgourdin complètement à l'origine locale, il s'est renouvelé à partir, il en était parti un certain nombre, il s'est renouvelé à partir de toutes ces personnes nouvelles qui ont été attirées par la médiatisation du projet. Si bien que, on avait un tout petit groupe périgourdin, et puis beaucoup de gens autour, ce qui ne nous a pas empêché d'aller jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire qu'on a travaillé pendant un an avec les architectes, tout le monde donnait son avis, on a expliqué, on a conçu les logements, donc chacun avait 50 mètres carrés de plein pied avec des coursives pour pouvoir circuler toujours à l'abri même quand on était à l'extérieur, enfin quand même couvert. Il y avait donc des espaces collectifs comme je disais tout à l'heure. Tout le monde a fini par choisir son logement, donc on était allé suffisamment loin. On avait tous les financements et on avait le permis de construire, donc qui était tout à fait possible. Et là, deuxième période de passage à l'acte, manque de chance, il y a une des personnes qui est décédée, une autre a été malade, et le petit groupe périgourdin qui tenait l'association, et c'était un peu lourd peut-être pour elle, puisqu'il y avait beaucoup de demandes à cause de la médiatisation, etc. a décidé tout seul d'arrêter tout. Et donc, elles ont arrêté. Et les autres qui étaient loin ont dit, mais nous, on ne veut pas arrêter, on veut continuer. Et bah oui, mais elles étaient loin. Et quand on leur a dit, bah oui, vous pouvez continuer, mais il faut que vous repreniez l'association, elles ont dit, bah non, on ne peut pas, c'est trop loin, c'est trop lourd. Donc, on a arrêté. Donc, c'est un exemple. Si j'explique ça, ce n'est pas pour décourager, c'est pour expliquer que ça ne peut pas se faire comme ça. Ce genre de projet, mais il y a des tas de choses. En même temps, c'est un enseignement, c'est-à-dire qu'on sait là où sont les points difficiles, donc on sait aussi maintenant comment faire pour éviter ce genre de choses. C'est important de savoir que c'est pas forcément des choses faciles à mettre en œuvre, mais c'est possible. Et il y a déjà des réalisations donc qui sont en train de se faire en ce moment. Par exemple, à côté de Lyon, il y a le village vertical. Donc là, c'est une coopérative d'habitants aussi qui se monte avec un bailleur social. La coopérative est un des... En fait, le bailleur social loue à la coopérative un grand espace où il y a plusieurs logements. Donc, ils sont gérés en coopérative. Donc, ils peuvent faire comme ils veulent au niveau du choix de leurs voisins si certains s'en vont. Mais c'est seulement dans cette partie-là. Il y a une mixité, c'est-à-dire il y a des personnes âgées et des familles, des jeunes aussi, puisqu'il y a quelques jeunes travailleurs aussi, c'est souvent ce genre de projet sur lequel on a à travailler, à accompagner, etc., et qui est très intéressant, parce qu'aucun n'est pareil. Alors il y a plein de points communs. Les points communs, c'est... On veut avoir la maîtrise de notre habitat. On veut le faire à notre façon, comme on veut, et l'utiliser comme on veut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la solidarité lutter contre l'isolement. Ça, c'est très important. Et l'autre chose qui revient... Alors, c'est évidemment le coût, parce que c'est vrai que le fait de se grouper... ça permet de baisser les charges de logement de manière assez importante, puisque du coup on se donne aussi les moyens de réfléchir à la conception de ces logements et de les faire économes en énergie, en eau, en assainissement, etc. Et l'autre point qui revient tout le temps, c'est l'environnement. C'est-à-dire que c'est toujours des conceptions respectueuses de l'environnement en termes de choix de matériaux, en termes de consommation d'énergie, d'eau, etc. Et de partage d'espace type jardin partagé, par exemple. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit quasiment dans tous les projets. Si on est dans une zone urbaine, c'est un atelier partagé ou des choses comme ça. Mais il y a toujours des espaces de ce type, voilà, avec des complémentarités. Donc quand on est dans des projets intergénérationnels, c'est que les échanges entre les gens se font assez naturellement, c'est-à-dire que les personnes âgées qui ont envie, elles n'ont pas toutes envie, mais quelquefois elles ont envie d'être avec des petits-enfants par exemple, et ça se fait tout seul. Mais il y en a qui n'ont pas du tout envie et elles peuvent ne pas du tout le faire. Donc c'est au moins c'est l'avantage de ce genre de projet. Et ben c'est ça. Alors, j'ai été brève, mais c'est pour que vous puissiez qu'on puisse discuter. Voilà.
Merci beaucoup. En plus de ça, Jessica, la plupart des points du tableau, même qu'il était dans ton dos.
Mais je les connaissais.
Ah, tu t'attendais effectivement à ce que ce soit les choses qui sortent. Donc maintenant, place au débat. Donc vous pouvez prendre la parole par rapport à ce qu'elle vient de dire, ce qui vous a amené à choisir la solution que vous avez adoptée, ou bien des envies. Monsieur Hubert est là, si vous avez des envies particulières. Voilà. Mais simplement, donc tout le monde peut participer bien sûr au débat, et donc poser vos questions à Liliane, et peut-être qu'il y a des gens aussi qui peuvent répondre dans la salle sur une expérience vécue ou sur déjà une approche des problèmes bien entamée. Voilà, donc Liliane est là pour nous aider à avancer dans nos idées sur ce problème. Alors, moi j'en ai une qui est tout à fait matérielle, là, d'ailleurs, pour commencer. Pendant tout ce temps-là, où on a commencé à mettre en œuvre le projet, donc on a commencé à débourser, on habite quand même toujours quelque part, et donc ça fait quand même un surcoût avant d'abandonner son système de logement pour venir dans celui qu'on a créé. Est-ce que ça pose des problèmes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été retenus dans ton expérience par ce genre de choses?
Non. Non, parce que alors le seul surcoût, si on peut appeler ça un surcoût, c'est si on se lance dans un projet comme ça, on va devoir faire des études. Donc les études, mais c'est un surcoût limité. C'est par exemple là, c'était 1000 euros par personne, c'est tout. Donc pour pouvoir avoir l'outil qui va permettre, pour avoir les plans, pour avoir... pour discuter, donc dire non, mais moi je trouve pas ça bien, pourquoi on groupe les maisons au lieu d'avoir chacun son petit pavillon avec son petit jardin autour, on est tous orientés au sud, est-ce qu'on va pas avoir trop chaud, enfin des choses comme ça, mais et qu'est-ce qu'on veut partager ou pas partager, mais tant qu'on n'a pas, en fait on n'achète pas le terrain. Si jamais c'est un terrain, on n'achète pas l'immeuble tant qu'on n'a pas réuni tout. C'est-à-dire que on va mettre une option sur un terrain ou sur un immeuble. On va travailler à partir de ça. On va concevoir tout. On va chercher les financements. On va aussi travailler sur le montage juridique. Est-ce qu'on fait une coopérative? Est-ce qu'on fait une SCI? Est-ce qu'on fait une SAS? Est-ce qu'on fait je sais pas quoi? Est-ce qu'on fait un foyer? On peut aussi. On va chercher les financements, donc on va chercher des subventions par exemple qui concernent l'environnement ou qui concernent les logements pour les personnes à mobilité réduite, ou bien il y a plein de choses qui sont possibles, ou bien avec un bailleur social des financements pour les logements sociaux. Donc on va faire tout ça, et après à la fin on va voir la banque Alors évidemment, si on est en coopérative, on a un peu plus de mal avec les banques parce que propriété collective, elles ne savent pas ce que c'est. Donc oh là là, alors là, qu'est-ce que c'est? Il faut une garantie, c'est qui va garantir? Donc il faut réussir à négocier, par exemple, avec une collectivité territoriale. Pour ça, mais ce n'est pas impossible puisqu'on arrive à le faire. C'est un peu plus difficile, on va dire. Sinon, on peut aussi faire de la propriété. Mais bon, c'est le problème si on part dans un système où on est en propriété, c'est qu'on n'assure absolument pas la pérennité du lieu. C'est-à-dire que on est dans un pays où la propriété, c'est sacré. Donc on peut pas lutter contre ça. C'est-à-dire que on est propriétaire d'un logement ou d'une parcelle, on vend à qui on veut. Si ça plaît aux voisins ou pas, on s'en fout complètement. Et donc, ça peut mettre une ambiance qui n'a plus rien à voir. Et ça peut mettre un peu le projet à l'eau. Ça peut. Bon. Mais donc, tant qu'on n'a pas réuni l'ensemble, on ne débourse rien du tout. Alors, le problème, c'est selon le montage juridique qu'on a mis en place, c'est au moment d'entrée qu'on va payer son loyer, qui sert à rembourser l'emprunt, etc. On cumule heureusement pas. Alors par contre, ce qui s'est posé beaucoup pour les personnes âgées qui étaient là, c'était j'ai un logement actuellement dont je suis propriétaire. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais pas. Est-ce que je le vends? Est-ce que en plus, si je vais dans un système type coopératif, est-ce que je ne vais pas léser mes enfants parce qu'il y a la succession, etc. Donc il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'ils vont être d'accord, pas d'accord? Voilà. Bon.
Oui, mais tu as bien répondu à ma question.
Vous avez expliqué toute une démarche. Et qui finalement a capoté, oui. Est-ce que vous en connaissez qui marche?
Oui, ce que je dis. Oui, j'en connais.
C'est ça qu'il faut nous dire.
C'est la démarche que je vous ai expliquée. Je vous ai expliqué les inconvénients de tous les écueils qu'on a rencontrés. Mais la démarche qui marche, donc qui a la réalisation, donc déjà je l'ai dit tout à l'heure, à côté de Lyon. Il y a Villeurbanne, donc ça existe, ça y est, c'est en construction actuellement, et il y a d'autres projets qui se montent exactement sous la forme de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des coopératives, les gens mettent de l'argent, donc c'est leur part sociale, et à partir de là, donc on va construire ou créer les logements aussi dans une réhabilitation, à partir de là... C'est la coopérative donc, qui va être propriétaire et qui va louer aux personnes. Donc là, on retrouve quelque chose qui est de la répartition aussi, de la redistribution, puisque comme c'est de la location, les personnes qui ont de faibles revenus ont droit à des APL et celles qui ont des revenus importants n'en ont pas. Donc on redistribue un petit peu à ce niveau-là. Mais il y a même des projets où ils ont imaginé que comme il y a des personnes, par exemple, retraitées qui ont de grosses retraites et d'autres qui en ont de toutes petites, il y a quelques groupes qui se disent, dans ce cas-là, c'est une coopérative, une personne, une voix, donc il y a égalité. Simplement, celles qui sont plus riches vont mettre plus d'argent comme part sociale au démarrage, et les autres n'en mettront pas beaucoup. Elles vont même jusqu'à faire appel à l'épargne solidaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, plutôt que de mettre mon argent à la banque où je ne sais pas ce qu'elles font avec, où je sais même ce qu'elles font avec et ça ne me plaît pas du tout, je vais le mettre dans des projets comme ça, ce sera rémunéré au taux du livret A, c'est pas beaucoup, mais au moins je sais à quoi sert mon argent et il sert à supporter des projets que j'approuve et que j'ai envie de soutenir. Donc il y a aussi ce genre de choses-là. Mais oui, ça. Alors des projets qui sont spécifiquement pour personnes âgées, comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y en a qui se montent actuellement, mais qui n'existent pas tout seul que pour les personnes âgées. Il n'y a que le village vertical, pour le moment, comme coopérative, qui est parti enfin, mais qui existe vraiment. Alors maintenant, il y en a plein. En Allemagne, en Suisse, en Suède, on peut aller facilement les voir et ça existe depuis très longtemps. Et ça fonctionne très bien. Et l'avantage, c'est que... Ah si, ça fonctionne pas ? Ah bon ?
Alors, je peux témoigner d'un village qui existe. Mmh. C'est le hameau des Buis.
Ah, ça c'est vrai, oui, oui.
Il s'agit de Sophie Rady,
oui.
Qui elle, animait une classe Montessori.
C'est vrai.
Et qui avait bien du mal à se développer financièrement. Mmh. Et elle a imaginé de créer un village intergénérationnel.
Voilà.
Et donc, ça, le projet a commencé en 2002. Il est devenu vraiment effectif, c'est-à-dire habité tellement en 2011. Et je peux en parler un peu puisque j'ai été un des premiers, oui, parce que ce que vous soulignez tout à l'heure, quand il s'agissait de remplir un chèque de 1000 euros, là, ce n'était pas 1000 euros qu'il a fallu verser au départ pour faire en sorte que le projet démarre, c'était 30 500 euros. Et personnellement, j'étais un des 6 à faire ce chèque. À 6, on a mis en route le projet. Et puis alors après, ben, il a subi beaucoup d'événements très 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 variés. Parce que d'abord, ben, le projet devenait trop trop coûteux. Donc il y a eu passage dans l'éco-construction, donc de manière à réduire les coûts, ainsi de suite. Et puis au départ, ça devait être que des retraités. Et puis finalement, ben, il s'est avéré qu'il n'y avait pas assez de retraités pour pouvoir financer toutes ces choses-là. Et finalement, maintenant, il est intergénérationnel avec des gens qui travaillent à l'extérieur. Il y a des retraités, et puis il y a une école, et puis il y a une ferme avec des animaux, avec bien sûr des jardins. Enfin, il y a beaucoup de mutualisation dans ce projet. Et la personne la plus âgée, là, a 84 ans.
Ouais.
Voilà.
C'est un.
Même en France, il y a au moins un endroit où je peux témoigner que ça existe.
Ah oui, oui, ça existe. Mais ça existe.
Et ils ont beaucoup fonctionné pour élaborer et faire en sorte que ça existe. Beaucoup ont fonctionné avec la communication non violente.
Alors, ce qui est, le lieu existe comme ça, il fonctionne effectivement comme ça. C'est pas une coopérative.
Alors, la forme juridique est effectivement enfin, un peu dans le genre de celle que vous aviez élaborée en Dordogne.
Non, parce que nous, c'était une vraie coopérative, c'était une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif.
C'est pas tout à fait une coopérative, je pourrais pas vous donner.
Moi, je sais ce que c'est, puisque je connais ce projet. C'est, ouais. En fait, au début, ils étaient partis sur une SCI. C'est-à-dire une société civile immobilière.
Ouais.
Et là, d'abord, c'est pas démocratique et équitable dans la mesure où celui qui a le plus de parts en fait a le pouvoir en fait, donc on est dans quelque chose comme ça, et c'est pas du tout anti-spéculatif. Et donc la volonté du hameau des Buis, c'était de rétablir quelque chose comme une égalité, et puis d'être anti-spéculatif. Donc ils ont transformé les parts sociales des personnes en parts viagées, en viagées, c'est ça. Du coup, ça permet effectivement de c'est un autre montage pour aboutir à quelque chose qui est effectivement au niveau du fonctionnement et de l'esprit le même. Mais c'est un autre montage un peu compliqué, un peu chaotique, on va dire.
Faire travailler beaucoup les juristes.
Voilà, c'est ça.
Pour trouver une formule qui soit convenable.
Oui, oui.
Mais elle existe.
Elle existe. Bah, il y en a un autre. Je peux vous en dire un autre. Alors, c'est à Brest. À Brest, c'est. Ah, les Baba Yaga ?
Ah,
bah alors, non, alors ils ne sont pas à Brest, les Baba Yaga ?
Oui, voilà, c'est ça. Alors, Brest d'abord et Baba Yaga ensuite.
D'accord. Alors, à Brest, c'est en fait, c'est une, il fallait une volonté communale importante, puisqu'il y avait un groupe qui voulait avoir un habitat comme ça, groupé, mais sans être propriétaire de parcelles, sans avoir de clôture, sans avoir. Voilà. Ils voulaient partager les espaces autour de la maison. Donc en fait, ils ont monté sur un terrain, ils ont juste des droits à construction, une surface. Donc c'est ça qui leur appartient en fait. Alors l'avantage quand même de ça, c'est que du coup, ils ont droit au prêt classique des banques. Ça pose pas de problème, alors que quand on est en coopérative, en propriété collective, on a des problèmes, enfin, il faut négocier dur avec les banques. Là, c'est pas le cas, puisque c'est un truc hyper classique. Donc, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont droit au prêt à taux zéro, etc., bon, normalement. Mais ils n'ont que la surface de leur maison. Tout le reste est collectif. En plus, il y a une maison qui est utilisée pour faire les espaces collectifs, les espaces partagés, etc., dont on parlait tout seul. Donc, c'est un autre montage encore, mais qui aboutit aussi à quelque chose d'identique. Alors, les Baba Yaga, elles sont à Montreuil. Et Baba Yaga, c'est parti d'une association de femmes, de femmes battues ou autres qui étaient à Montreuil. Elles ont vu toutes sortes de choses un peu difficiles. Et du coup, elles se sont dit, on veut, pour notre retraite, on voudrait avoir à habiter au même endroit, dans un lieu qu'on va gérer à notre façon. Premièrement, c'est d'intérêt collectif, donc il n'y a aucune raison que ce soit nous qui le payons, il faut que ce soit un bailleur social. Deuxièmement, on a vu tout ce qu'on a vu avec notre association, on veut qu'il n'y ait que des femmes, pas question qu'il y ait un homme dans cette maison. Troisièmement, s'il y a un bailleur social, il faut aussi quand même que... On veut se choisir entre nous, on veut se coopter, etc. Alors elles ont du coup, ça a été extrêmement difficile parce que le bailleur social, bon, ils ont fini par en trouver un. La commune avait passé un contrat avec un bail emphytéotique avec le bailleur social. Mais quand il a fallu trouver les financements pour le projet sur lequel elles avaient travaillé, elles savaient très très bien ce qu'elles voulaient. Et bien là, elles ont eu des problèmes non pas parce que c'était une propriété collective, là pour le coup, c'était pas ça. Mais parce que c'était le conseil régional, composé de 90% d'hommes, a considéré que c'était tout à fait discriminatoire et qu'il était hors de question de financer un truc où il n'y avait que des femmes. Donc elles n'ont pas du tout pendant longtemps, donc il a fallu des années de négociations, de lobbying, etc., pour qu'elles réussissent enfin à faire avancer les choses. Simplement après, elles se sont heurtées au bailleur social. Bailleur social, moi je regrette, mais moi ma règle c'est attribution des logements à partir du critère des revenus, point. Donc à nouveau, il a fallu qu'elles se rebagarrent pour pouvoir coopter quand même, etc. Donc elles sont arrivées à un accord maintenant et ça y est, c'est enfin parti, mais ça a duré presque 10 ans, je crois, presque 10 ans pour réussir à monter leur projet. Mais ça y est, enfin, elles sont rentrées, je crois qu'elles sont rentrées dans les lieux maintenant.
Elles invitent les hommes, ils n'ont pas le droit de dormir.
Non. Voilà, c'est ça.
Ça soupire un peu.
Non, alors là, ça pour revenir sur les histoires de couple et d'intimité. En fait, c'est ce qui me fait penser, c'est ce que dit Martine. C'est elles veulent pas qu'ils dorment parce que elles considèrent que dès qu'il y a un homme dans le coin, ça fout la pagaille entre les femmes qui sont là. Donc elles veulent absolument pas ça. Et s'il reste là, qu'il dort, etc., alors là, il y en aura qu'un en plus, donc ce sera pas là, ça vaut pas. Donc elles veulent pas.
Quelle sagesse.
Et dans le projet, donc, qui ne s'est pas réalisé, mais qui a quand même pas mal avancé, vous parliez d'une charte.
Oui.
Ça a sûrement repris les éléments qu'on a énoncés là.
Oui, alors il y a plein d'autres choses en plus. Ouais, parce qu'en fait, pour établir la charte, on faisait une séance de travail et on disait qu'est-ce qui serait l'idéal. Donc en fait, mais après ça tournait forcément sur c'est du quotidien en fait. L'idéal, c'est on vit son quotidien agréablement. Mais alors, à travers ces discussions, qu'est-ce qu'on a tout de suite vu? L'agréable pour l'un, c'est pas l'agréable pour l'autre, pas forcément. Donc faut trouver, il faut se mettre d'accord sur comment on va, donc ça, comment on va vivre ensemble, en gros. Quelles sont les limites de ce qu'on peut partager ensemble? Par exemple, le gros point d'achoppement, curieusement, mais le pire, c'est que je l'ai trouvé dans d'autres groupes, c'est les animaux. Moi, je veux avoir mon chien, mon chat, mon lapin, mon je sais pas quoi. Oui, mais mon chat, moi, j'ai 15 chats. Non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait du chien quand on part, etc. Donc, il faut régler tout ce genre de petites choses. Et en fait, la charte, ça a permis... C'est très intéressant de faire une charte quand on est un groupe comme ça, parce que à travers des choses qui sont... dans un premier temps, on parle des grands principes. Les grands principes, la solidarité, l'autonomie, l'intimité de chacun, qu'est-ce qu'on veut partager, qu'est-ce qu'on ne veut pas partager. Mais après, on discute sur le quotidien, sur des petits détails. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que l'idée qu'on a Et la manière qu'on a de le vivre ou de le supporter ou de le comparer à ce que quelqu'un d'autre qui est à côté de nous dit, elle dit la même chose, mais nous, on la connaît, on sait que c'est pas comme ça qu'elle vit en vrai. Donc, ça n'est pas tout à fait comme ça. Donc, bon, ben, y a plein de discussions et c'est très passionnant. C'est très passionnant, mais pour tout le monde, pour les gens qui sont dans le groupe aussi, parce que, ça, en fait, même si finalement... là, c'est vrai que c'est ce groupe-là, c'est un échec. C'est dommage que ça soit. C'est pas un échec complètement, parce qu'on est allé jusqu'au bout de la démarche, sauf malheureusement la réalisation. Ça, c'est quand même très embêtant. Mais enfin, on est allé jusqu'au bout d'une certaine démarche, et c'était riche pour l'ensemble du groupe, y compris pour moi d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qui se disent ou qui ne se disent pas. Et qui sont quand même importantes à savoir. Je dis ça par exemple, il y avait sur la laverie collective, tout le monde est d'accord pour faire une laverie collective, parce que c'est vrai que ça va être un moment où on va se rencontrer, on va discuter, ça permet de faire des économies, on n'est pas obligé d'avoir chacun sa petite machine à laver, ça permet de faire une économie de place et d'argent, enfin plein de choses comme ça. Au niveau de l'environnement, c'est très bien parce que on va économiser de l'eau, des produits, enfin toutes sortes de choses. Bon, oui, mais tout le monde était d'accord. Et au dernier moment, juste le séminaire qu'on a fait juste avant que ça s'arrête, où tout le monde était d'accord, trouvait que c'était bien, etc., il y en a une qui a dit « Ah mais non, finalement je suis plus d'accord pour la laverie collective ». Ah bon, alors là on était vraiment tous, enfin moi j'étais estomaquée, parce qu'on en avait parlé pendant un certain temps, puis une deuxième aussi. Il y en avait deux, en fait, qui n'étaient plus d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai compris après ce que c'était. C'était tout simplement parce que comme on arrivait au bout du processus, et que l'année prochaine, on serait dans le lieu en vrai. Dans le lieu en vrai, ça veut dire que je m'imagine en train de prendre mes affaires pour aller à la laverie, pour laver mes affaires. Et il y a des personnes qui avaient des problèmes d'incontinence, et elles se disaient, non, mais moi, je ne veux pas qu'on... Je veux pas qu'on le voit, en fait. Même si on le sait comme ça, j'ai pas envie. Et en fait, c'était ça. Et c'est, donc, je veux dire, il y a des tas de choses comme ça qui sont, même quand elles ne s'est pas dit, finalement, quand on travaille en groupe, bon, on peut le percevoir autrement, etc. Mais c'est important. C'est important de ne pas passer à côté, parce que ça peut créer des tensions, ça peut faire que ça se casse la figure alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Enfin, il y a des petites choses de cet ordre qu'il faut réussir à trouver ou à exprimer. Mais voilà, c'est du quotidien. Hein. Le quotidien, bah, c'est comme ça.
Quand vous avez monté ce projet, quelle était la moyenne d'âge?
Alors, on avait... c'était à la fin, donc le groupe, c'était... Il y avait deux qui étaient plus jeunes que les autres. Il y avait 56 ans... Et 59 ans, c'était les deux plus jeunes. Et sinon, ça allait jusqu'à 96 ans. D'où la difficulté quand le petit groupe Périgourdin a arrêté, les autres qui étaient plus loin, c'était les plus âgées aussi. Et elles se sont dit, on se sent pas de reprendre le truc. Donc c'est assez dommage. Mais bon. Donc il faut rester local, je pense, premièrement. Faut pas la médiatisation, pas du tout, tant que c'est pas fait. Là, vraiment, on n'aurait jamais pensé avoir un article dans Le Monde, mais vraiment, pas du tout. Hein. Mais surtout, vu la catastrophe que ça a déclenché après. Donc ça, surtout, ça, c'est la leçon. Et après, au niveau de la gestion du passage à l'acte, il faut que d'emblée, les gens s'engagent vraiment. Alors, soit ça peut être financièrement, ou un engagement plus progressif. Mais il faut que ça le soit dès le démarrage pour éviter les allers-retours comme ça qui sont catastrophiques au niveau de la gestion d'un projet. Quoi. Ça, c'est au moins les trois enseignements qu'on peut en tirer, qu'on fait attention maintenant.
Et il y avait un accompagnement prévu pour ensuite continuer cette aventure, parce que vivre ensemble, c'est quelque chose qui se crée peu à peu. Enfin, on peut pas... La petite histoire d'incontinence, même si on l'imagine, c'est effectivement au quotidien qu'on va...
Ouais, bien sûr.
Et tout ça, il y a plein de choses comme ça qui font que...
Alors, on en avait parlé pendant la discussion sur la charte. Donc, moi, personnellement, j'ai vécu dans un groupe, en communauté, il y a longtemps. donc je savais comment les aléas des groupes. Et donc je leur avais dit, c'est important d'avoir un médiateur extérieur avant tout de suite, même maintenant. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi les Baba Yaya, même dès le début, quoi. Surtout quand il n'y a pas de problème, surtout maintenant. Parce que sinon, en fait, ça fait les gens se bagarrent entre eux et en fait, ça ne résout rien du tout. Au contraire, ça ne fait que s'envenimer. Chacun reste sur sa position, il n'y a pas on ne progresse pas vraiment, quoi. Donc, c'est ça qui était prévu. Qui d'ailleurs a été. Il y avait une médiatrice, en fait, et qui travaillait avec nous. Voilà.
Vous avez dit que vous avez vécu en communauté. Est-ce que c'est pas indiscret de vous demander pourquoi vous en êtes sorti?
Mais je peux vous le dire, c'est des problèmes classiques de couple. C'est une séparation malencontreuse et voilà, du coup je suis partie. Par contre, je suis partie à regret. Non, pas du tout. Non. Non, parce que je trouve que la vie de groupe, c'est. En fait, moi, j'ai envie de vivre en groupe. Et ça me manque énormément.
C'était ça que je voulais savoir.
Moi, ça me manque beaucoup de plus être dans un groupe maintenant, parce que je trouve que la vie en groupe, ça enrichit personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, le fait justement d'être confronté aux autres, d'avoir à résoudre des choses au quotidien comme ça, ça nous oblige à nous voir, nous, chacun. Et ça, c'est vraiment très enrichissant, c'est très intéressant. Et moi, j'ai trouvé ça bien. Voilà.
Et la communauté continue à l'heure actuelle ?
Non, celle-là ne connaît pas. Mais bon, c'est vrai que moi, par contre, comme je suis curieuse et qu'il y a eu des questions que je me posais quand j'étais dans ce groupe, je suis allée visiter l'état de communauté pour voir comment c'était ailleurs, pour voir si c'était mieux ou pas. Donc, je sais qu'il y en a qui existent encore et qui fonctionnent très bien.
On avait reçu ici John Jordan et Isabelle Frémaux sur les utopies. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez eu à connaître, parce qu'ils étaient allés visiter justement des lieux de communauté. Vous n'entendez rien ? Ah, pardon. Bon, nous avons déjà reçu ici, dans les jeudis en question, John Jordan et Isabelle Frémaux qui avaient fait un parcours des utopies et donc des lieux de communauté en Europe pour en faire une espèce de petit bilan d'étape. Et aux dernières nouvelles, ils ont constitué une communauté du côté de Questembert dans le Morbihan. Et je pense que là, fin juin, début juillet, ils ont un chantier collectif ouvert. Il y en a certains qui ont peut-être pu recevoir un mail là-dessus. Je le ferai suivre puisque j'avais gardé les contacts. Oui.
Mais j'aurais voulu savoir si les résidents qui sont ici présents de la maison de retraite auraient été tentés par ce genre d'expérience, s'il y en a certaines d'entre elles ou d'entre eux.
Alors, vous avez entendu la question. Il vient de demander si par hasard l'une ou l'un d'entre vous aurait été tenté, s'il avait peut-être connu, été en contact avec cette idée-là, aurait été tenté de monter quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous aurait tenté ?
Pas du tout.
Faut-il dire qu'à ce moment-là, c'est que la solution que vous avez choisie vous convient complètement.
Exactement.
Voilà, hein. Vous n'avez pas une auréole là-bas?
Ça, c'est quand même une génération, les réserves de Fourier, entre autres, c'est une génération qui a pratiqué l'habitat solidaire, puisque autrefois, il n'y avait pas de maison de retraite, donc ils hébergeaient jusqu'à la fin de leur jour leurs parents ou leurs grands-parents. Une forme d'habitat solidaire.
Oui, vous avez eu à héberger vos parents.
Oui.
C'est vous qu'on a été chez eux.
Oui, donc. Vous avez eu moins, donc. expérience de cet habitat solidaire. Oui,
justement, pour répondre à monsieur, c'est avant la famille, c'était ça.
Oui.
Là, la différence, c'est qu'on choisit quand même la personne voilà. avec qui on est, pour la famille, on ne choisit pas. Et surtout, c'est les valeurs qu'on veut en partager. Et là, c'est ce qui est génial. C'est que, et je pense d'ailleurs, ça ne peut pas être un processus qui se fait en 6 mois, 1 an.
Non.
C'est surtout pas précipiter les choses, c'est discuter de tout ça. Je pense que en Aveyron, il y a le cas de Christelle, qui n'est pas intergénérationnel, mais qui est dans ce cadre-là. Je crois qu'ils ont mis 5-6 ans à faire la chose. Et puis il part de 30 et à la fin, il finit sa vie. Quoi. Et puis entre-temps, sa vie.
De qui tu parles là ?
Dispense, au sud de Saint-Afrique.
Annie.
Ils étaient 30 au départ. C'est-à-dire qu'ils ont pas, ils se sont pas mis par terre financièrement pour faire le projet. Donc c'est vraiment des solutions pour l'avenir. Et puis les banques, on les met un peu de côté de ce côté-là.
Oui, donc quand ils disent Annie, tout le monde n'est pas au courant. Quoi. Ouais. C'était donc Annie Négrol qui était en contact avec les gens ici du Vallon. Mais qui habitait Sébazac, je crois, elle, non ?
Bariac.
Voilà, mais donc qui a monté avec d'autres un projet dans le Saint-Africain. Et donc moi je ne suis pas au courant du projet, je sais qu'il existe. On a même été invité à aller les rencontrer à l'occasion de chantiers collectifs aussi. Et donc il y a des choses qui se font même très près de chez soi. Et c'est vrai qu'il y aurait eu la place à son témoignage ici, mais... Ils sont très surchargés d'élaboration maintenant.
Ils sont tellement heureux. Là.
Voilà, c'est ça. Mais quand même, donc je sais qu'ils ont du boulot collectif là, beaucoup de boulot collectif. Bon. Voilà.
Mais ce système-là, adapté pour des personnes âgées fragiles, c'est derrière la solidarité qui doit jouer à un moment. C'est de se dire, voilà, on parlait d'incontinence, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Dans la famille, dans les familles avant, quand ça se faisait, quelqu'un était incontinent, c'est très dur à vivre, parce que il y a le rôle du père-fils ou mère-fille qui change. Et changer, devenir le père de son père, parce qu'on le change, ou pas de sa mère, c'est extrêmement douloureux, et c'est souhaite à personne. Même en durée, c'est horrible ça. Et ça change pour soi, parce que c'est dur quand on est le fils, mais le père de la mère, c'est un vampire.
Est-ce que c'est pas une image qu'il faut changer justement de ça ? Parce que comme dites, c'est
il y a un travail.
Finalement, c'est aussi la perception qu'on a de la vieillesse aussi.
Et il y a un travail sur soi. Il y a un travail sur soi qui a à faire. Moi, j'ai eu à le faire par rapport à ma main. Et je dois dire que ça. Oui, il y a un travail sur soi. Il y a un travail sur soi à faire quand on a la nécessité, effectivement, de s'occuper complètement d'un parent. Mais effectivement, moi, je sais que ça. Ça participe à ma sérénité sur l'avenir aussi, enfin sur la mort, de voir ces transformations, de les avoir sous les yeux. À un moment donné, il faut faire avec. Et puis ce faut faire avec n'est pas négatif. Enfin, il faut arriver à le rendre positif, plus exactement. Et bon, ça peut se faire. Voilà, ça peut se faire et ça aide beaucoup, me semble. Vas-y, GG.
J'ai entendu parler d'autogestion coopérative d'un côté. Et est-ce qu'il existe dans les maisons de retraite quelque chose d'avoisinant, du genre élection de résidents pour la cogestion, etc. Ou bien c'est carrément l'opposé, l'image inverse de ces expériences autogérées. Donc est-ce qu'il y aurait une collégialité, des sélection de représentants.
Donc je peux répondre, je n'ai pas de la réponse exacte, mais je travaille à la maison de retraite, je suis animateur sur le ballon. Les résidents, on les introduit dans ce qu'on appelle maintenant, depuis 2-3 ans, le conseil de vie sociale. Voilà. Alors, personnellement, je trouve que c'est une grosse mascarade. Effectivement, on a fait des élections, on a élu des représentants des résidents auprès de la direction. C'est une instance qui est consultative. Alors les résidents sont réunis avec les représentants des familles, la direction. On remonte des problèmes, effectivement, mais il ne faut pas se leurrer. C'est toujours le côté financier qui ressort de la part des familles et tout ça. Enfin, nous, pour notre cas. Quoi, donc, alors après, c'est vrai que la place du résident dans une institution actuellement, on leur propose des choses, alors on leur demande leur choix, mais est-ce que tout est respecté? Est-ce que je ne suis pas certain de ça, quoi. Donc, ils sont vraiment habitués à être vraiment accompagnés partout, quoi. Y compris au conseil de vie sociale. Ils osent très peu déjà prendre la parole. Et sur les 95 résidents, sachant qu'il y en a beaucoup de qui ne sont pas en capacité, mais les 3-4 qui viennent, il y en a un qui osera peut-être dire quelque chose. On y a rencontré d'autres animateurs ou animatrices, c'est à peu près le même problème, le même constat qui a été fait dans notre institution.
Voilà. C'est une mascarade parce que c'est, vous l'avez dit, consultatif. On peut parler de tous les problèmes du monde, ça concerne les problèmes de la maison. Mais derrière, effectivement, c'est consultatif.
Je parlais de cogestion.
Oui, voilà. Alors, c'est pour ça que là,
répondre à ce que vous dites, ça,
donc, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Et c'est pas envisageable. Et nulle part.
Pourquoi? Alors, c'est envisageable, bien sûr, il faut y aller.
Mais
le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle vraiment de vieillesse et quand la fragilité est là et grandissante, on va en parler le plus tard possible. C'est pour ça qu'une initiative comme ce soir est à saluer, il n'y en a pas beaucoup. Où est-ce qu'on peut parler de cette situation sociale de la vieillesse en France? Vous avez beaucoup d'envieux d'endroits dans les quelques années, là. C'était même pas un problème dans l'élection présidentielle, on n'en a pas parlé. C'est pas du tout un problème.
Et sur la perte d'autonomie, donc les termes aussi, c'est pas l'indépendance, c'est la perte d'autonomie.
Oui, voilà,
donc on est dans une situation de l'autonomie. Enfin, moi je le vois plutôt le côté individuel. Moi je suis autonome, je vais avoir des faiblesses physiques ou psychologiques, mm-hmm. Mais c'est moi qui vais trouver la solution, alors soit par l'assurance privée ou on avait le programme sur la réforme des retraites, c'était soit retraite par répartition, retraite par capitalisation. C'est l'individualisme ou le côté solidaire. Et quand on parle de dépendance, d'interdépendance, on est tous dépendants. Moi, je suis dépendante des gens avec qui je vis. Et l'interdépendance. Et la dépendance, l'interdépendance, c'est plus le côté, je trouve, solidaire. Comme la retraite par répartition, où c'est un salarié qui va payer le retraité. La façon dont on utilise, enfin, les termes qu'on utilise, je trouve, ils correspondent aussi à qu'est-ce qu'on veut pour la société. Et jusqu'à... Enfin, là, aujourd'hui, Sarkozy il avait proposé le programme sur la perte d'autonomie. Bon, on ne l'a pas vu. Financièrement, il n'y a rien eu. Mais on voit aujourd'hui... le plan Alzheimer. Mais là, dans les propositions qu'il y a pour vivre sereinement notre vieillesse, on s'aperçoit qu'on est à court, quoi. Et il y a tout à créer.
C'est que des initiatives citoyenne ou privée.
Oui, voilà.
Ouais.
C'est ça.
Et pourtant, c'est un problème de société. Vous parliez au départ de la démographie. Ben voilà, on va vers une population vieillissante. Donc comment on va assurer tout ça? On sait qu'au niveau des maisons de retraite, il n'y a pas assez de place.
Alors,
les foyers de gens,
et puis, ce n'est pas une solution. Enfin, je suis persuadé, pourtant, je suis dedans. Dans 10 ans, ce ne sera pas du tout les mêmes maisons. Si elles restent comme ça, de toute façon, dans 10 ans, elles le feront.
Alors c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, je le sens parce que j'ai été invitée pas plus tard que la semaine dernière par un groupe j'ai été invitée la semaine dernière, c'est pour dire que ça commence à évoluer, puisque j'ai été invitée la semaine dernière par des personnes qui étaient, c'était des gestionnaires de maisons de retraite, des clics. Des associations qui s'occupent de personnes âgées ou d'aide à domicile, etc. Et en fait, c'était sur quelle alternative on pourrait trouver, parce qu'on sent qu'il y a une demande. Donc, il m'avait invité pour que je leur explique comment, comment on avait fait ailleurs. Bon, est-ce que ça peut être une solution? Et donc, ça montre qu'il y a quand même... ils se posent des questions. Parce qu'ils sentent que ça ne répond pas aux besoins, quoi, en fait.
Mais quand tu dis que dans 10 ans, ça, le fonctionnement actuel ne marchera pas, c'est à cause de financièrement ou...
Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que je pense que pour bien réussir, il faut avoir répondre au moins à trois choses. La notion de domicile, j'essaie de résumer un peu ce qu'il y a là, domicile, qu'on soit une personne à part entière, un citoyen à part entière, avec l'autonomie, enfin, et puis le stimuler, le garder, etc. Et la troisième, c'est le lien social. Et si on n'a pas ces trois, on est foutu au bout d'un temps, parce que, le domicile aujourd'hui, quand je parle de logement dans la maison d'accueil chez nous, je peux pas, je parle de chambre. On ouvre la porte, on voit le lit. Parce que c'est 20 mètres carrés. On ne peut pas parler de logement dans 20 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'on ouvre, il faut voir un espace privé, et puis après, le lit. Donc là, on rejoint la notion de studio, logement, foyer. Après, l'autonomie, pour la stimuler, pour que ce soit quelque chose de... Parce que dans les maisons, on fait du travail formidable. Il y a des choses qui sont qu'on fait. On met des gens qui viennent en fauteuil, qui marchent après, quoi. Je veux dire, c'est faux. Il y a un super travail. C'est fait aussi par des professionnels. Donc là, la notion dans le groupe, faut le mettre, ça. C'est-à-dire, qui est-ce, c'est bien d'être solidaire, mais qui est-ce qui va le faire au moment où il va falloir faire ceci, cela? Après, la notion de lien social, on peut y répondre, c'est peut-être là-dessus où on répond le mieux, où ça sera peut-être le plus facile pour l'avenir, même si les maisons, longtemps, ont été des portes fermées, maisons fermées, maisons closes, mais des maisons fermées. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prennent une conscience qu'il faut ouvrir ces portes. Parce que les gens qu'on accueille ne peuvent plus aller à l'extérieur, ne peuvent plus bénéficier d'échanges et des activités qu'on faisait avant. Là, on faisait de la peinture avant, pourquoi vous n'en feriez pas maintenant? Enfin, c'est quelque chose de très simple, mais on peut faire, il y a aussi d'autres choses. Et ça, c'est très important. Donc la grande difficulté aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas trop tard, c'est d'ouvrir les portes de ces maisons.
À condition que les maisons ne soient pas extérieures à la ville. Ah oui, si c'est au centre-ville, ça va. Oui.
C'est là qu'ils s'en passent.
Je pense que les gens rentrent de plus en plus tôt dans les maisons.
Est-ce
qu'une
association est-ce que
propriétaire
Attends, on y arrive. Elle était en train de parler et seulement on l'entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez monter un peu?
Alors, je disais qu'on rentrait de plus en plus tard dans les maisons de retraite. Parce que de toute façon, les gens veulent rester le plus longtemps possible chez eux. Et puis il faut dire aussi que les conditions, enfin moi j'ai ma mère qui est dans une maison de retraite. Et quand on sait que l'administration propose des postes où on compte 17 minutes pour faire une toilette, alors 17 minutes pour faire une toilette au lit, vous savez, je ne sais pas comment ça peut se faire.
C'est
ce qu'on nous dit.
Je suis aide-soignante.
Mais là, dans cette maison de retraite, voilà. C'est 17 minutes.
Si
on parle du problème, ce problème de personnel est très
important. Et puis il y a l'autre souci. C'est que c'est, malheureusement et heureusement, c'est un milieu qui recrute beaucoup. Donc, depuis quelques années, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, on voit arriver des femmes, des hommes, qui ont effectivement un rôle d'aide-soignante sans diplôme et qui n'ont rien à faire auprès de personnes âgées. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive, c'est pas une majorité, c'est quand même une minorité. Et cette minorité-là est quand même présente dans les établissements.
Et dans la maison de retraite où est ma mère, l'année dernière, il y a un turnover, il y a 50 personnes qui sont passées dans cette maison de retraite.
Ah oui, donc
alors, vous vous rendez compte de l'accueil que... Enfin, comment les personnes...
C'est actuellement une structure...
Comment voulez-vous qu'elles s'y retrouvent, là-dedans?
C'est la structure actuellement, mais effectivement...
Excusez-moi,
dans 10 ans, non.
Non,
c'est la structure actuellement, mais dans quelques années, ça va être à domicile.
Oui.
Si on développe l'accueil domicile, il y aura ce même problème, ce même souci-là, de toute façon.
C'est déjà le
problème. C'est un problème de société, un problème de choix politique. À un moment donné, si on veut une société solidaire, de bienveillance, il faut mettre l'argent là
l'argent collectif.
Dans la solidarité, dans le lien social. Quand vous discutez
discuté avec les personnes, on a eu l'occasion de le voir, j'étais soignante à Valjoli avec ces personnes-là, et j'ai découvert plein de choses, notamment cette histoire de lien social. La plupart qui sont là habitaient, étaient gamins, allaient à l'école à Clairvaux, ont plein d'amitiés, et ce qui fait qu'elles sont en pleine forme et qu'elles sont vivifiantes, c'est qu'elles sont dans leur lieu de vie. Et ce lien social, elles l'ont gardé. Et ça.
Elles ont voyé comment parler de vous,
venir dans la maison. Mais c'est vrai qu'il faut financer davantage les professionnels de santé et les aidants familiaux. Les aidants, ben, on ne s'imagine pas, mais les gens qui sont à domicile, il y a 80%. 80% des aidants s'occupent de leurs parents à domicile et il y a 20% de professionnels. Et ils sont essentiellement sont des femmes sous-payées, enfin qui n'ont même pas d'argent souvent parce qu'elles se sont occupées de leurs enfants après de leurs parents et qu'elles n'ont pas travaillé, donc la retraite on n'en parle même pas, elles s'occupent de leurs parents. Il faut qu'elles aient un statut social, ces femmes-là. Bah, et les hommes aussi qui travaillent là, mais il y a à développer énormément au niveau social. Et ça crée des emplois.
Il y a bien des personnes à la maison de retraite de ma mère qui ne sont quasiment pas de visite. Et alors quand on est un petit peu présent, je préfère autant vous dire que les aides-soignants regardent du froid. Moi j'ai été prêtée dans le décile parce que j'ai osé demander au directeur d'acheter des bavoirs. Ils étaient commandés au mois d'octobre, ils sont arrivés en février. Alors quel est le respect qu'on peut avoir de la personne si toutes les fois qu'elle est à table, on la souille quand on l'aide à manger? Moi je parle du concret, du vécu qui vient de cette maison de retraite, qui se dit mutualiste. Ouais. C'est ça qui m'est tout.
Après, il y a un travail, il y a eu des expériences dans des maisons de retraite où les familles, donc des résidents, participaient aux soins.
Et bien moi j'ai été interdite. Vous voyez,
je voulais aller aider
pour soutenir ma mère pendant que la personne a lavé. Et bien il y a une case, non, c'est pas possible, vous pouvez pas.
C'est côté médical qui ressort.
On a les bras qui tombent,
bien sûr.
Si vous venez à Valjoli, je vous donne le repas, je vous offre le repas.
Il y avait une première question là-bas au bout. Non, ça va. Bon. Alors allez-y.
C'est d'avoir un contact avec la mère.
Allez-y.
Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur.
Plus fort.
Il a l'air assez pessimiste par rapport à l'ouverture des maisons de retraite.
Je rejoins pour donner un exemple sur ce que dit Martin, elle vient de le dire, c'est que les pouvoirs publics ou politiques extrêmement fermés. Nous on a vécu, moi ça fait 3 ans que je suis ici, on nous a refusé le tarif global. Alors c'est technique, hein, mais c'est ni plus ni moins avoir un petit peu plus de moyens avec plus de responsabilités. On était prêts à les assumer, on voulait aussi le plus de moyens avec, et on savait comment faire nous. Et en plus, on laissait le trou de la sécu avec ce qu'ils nous donnent. Bon, ils nous l'incitent, ils nous le promettent, et puis au moment où on est prêt à y aller, ils nous disent non. Derrière, bon, on est quatre, on est en groupement de coopération, en quatre maisons. On met 1000 pétitions sur le bureau du directeur de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Maintenant, hein, c'est eux qui ont le grand pouvoir, hein, c'est plus, la DAS n'existe plus, c'est eux. C'est le directeur de l'ARS, directement nommé par le ministre, formé par le ministère. Enfin, c'est quelqu'un qui est en lien direct. Ce monsieur, on lui donne 1000 pétitions sur la table. Il ne nous fait pas une réponse. On n'a pas un oui ou merde. Et on n'est plus considéré. Et là, quand je vous dis les 1000 pétitions, c'est des résidents, c'est des familles, c'est des personnels, c'est les membres du conseil d'administration. Parce que les membres du conseil d'administration, chez nous, c'est des bénévoles, hein. C'est pas un patron qui vient encaisser les dividendes. Et on va à la préfecture, on a fait un rassemblement devant la préfecture avec 200 personnes. On est tout juste reçu par le chef du cabinet. Derrière, aucune réponse, rien. Par contre, maintenant, on est dépistifié. Oui, vous, là,
les agitateurs.
Donc ça inquiète. Après, ce qui est inquiétant, c'est est-ce que on va pas vers l'évolution de la copropriété avec on se prend tous en main, etc. Là, dans les maisons de retraite aujourd'hui, ce qui se joue, c'est il y en a qui rachètent, le rachat de lits. Il y a des sociétés privées qui arrivent. On est de peinard en environ, il n'y en a pas encore. Ça y est, mais je peux vous le dire, c'est dans les textes sont écrits, ils sont signés. Il faudra juste attendre un petit peu. Sur Rodez, ça va. Les sociétés privées qui vont venir, qui vont racheter, parce que les petites unités
les petits établissements. C'est bien d'avoir des petites unités, mais elles ne vont plus pouvoir répondre au niveau de qualité que les textes, la réglementation demande. Et donc, ils vont fermer petit à petit. Mais les gros, eux, ils viennent, ne vous inquiétez pas, moi, je vais vous le gérer, votre truc. Et puis, il n'y aura pas de déficit. Et alors que ce soit le petit maire dans la commune ou le petit décideur, le conseil d'administration qui sont vieillissants aujourd'hui, c'est des bénévoles dedans. Mais le nôtre, c'est des sœurs, et puis c'est des gens qui ont 60, 70, 80 ans, 90 ans. Mais moi, j'en vois pas des jeunes 30, 40 ans entrer dans le conseil d'administration. Donc ça fait peur. Parce que quand eux, ils vont venir, ils vont racheter ça, la petite unité va vivre quelque temps. Au bout d'un temps, ils vont augmenter de 10 euros par jour, parce qu'il faut faire vivre l'actionnaire, c'est l'effet, hein, 10 euros par jour de plus, quand vous payez déjà 50 ou 60 à l'unité, qui peut le payer. Et après, quand ils vont étouffer tout le monde là, ils disent, mais vous voyez, on ne peut pas garder la petite unité. Par contre, moi j'ai un projet, c'est une maison de retraite qui a 500, 600 places. Ah, elle sera plus là, hein. Par contre, elle sera pas à Rodez, hein. Elle sera peut-être à Toulouse, hein. Mais il faudra aller là-bas. Mais eux, ça, c'est leur projet, hein. Les actionnaires qui ont... Donc ouais, ça fait peur.
À partir de 60
lits,
c'est rentable.
Et il n'y a plus un conseil général qui donne une autorisation en tout de 60, parce que le seuil de rentabilité est là.
C'est 60.
60. Bon, ça peut se faire aussi, hein. Je veux dire, après, il faut réfléchir à l'architecture, Faut pas mettre une grande salle à manger, faut pas faire que des grands trucs, etc. Mais ça reste 60. Hein.
Mais ce qui s'est passé à Perpignan, il comptait même les tablettes de beurre. Mais les bras qui tombent. Il y a eu toute une série d'émissions de Daniel Mermet sur ces maisons de retraite qui sont gérées par des fonds de pension américains qui arrivent et qui savent qu'effectivement, là, il y a du blé à faire.
Et aujourd'hui, il y a plein de fonds de pension, l'urgentiste, là, qui en parlait, Patrice Peloux, il y a 150 milliards qui sont partis l'an dernier, hein, de gens qui ont donné de l'argent à ces fonds de pension, et les fonds de pension, ils ne réinvestissent pas en France. Hein. L'argent, il retourne là où ils sont. Hein. Alors, on cherche à combler des déficits. Les gens donnent 150 milliards par an. Mais nous, on a, dans la Caisse nationale de la solidarité... Il y a 220 millions d'euros l'an dernier qui ont été collectés, qui sont à destination des personnes âgées fragiles, qui n'ont pas été distribués. Ça reste dans la caisse, et puis au bout d'un temps, ça va remonter à la sécu, parce qu'il faut... Voilà.
La fameuse journée travaillée.
C'est une partie qui n'est pas utilisée, et on nous en parle d'une deuxième. Donc oui, on peut avoir...
Oui.
Oui, l'association de colocataires ne pourrait pas gérer une structure pareille.
De colocataires.
Plutôt que de coopérative.
Alors, une coopérative, il le gère. Alors, tout à l'heure, vous disiez plutôt copropriété, c'est ça?
Oui, copropriété.
Voilà. Alors, c'est pas la même chose. Les copropriétaires, c'est par exemple des gens qui sont... soit en SCI, soit qui sont voisins tout simplement dans un même immeuble. Alors si c'est des gens qui s'entendent bien, ils peuvent tout faire. Quand on s'entend bien, ça va bien. La seule chose, c'est qu'ils sont propriétaires. Donc bon, c'est très bien d'être propriétaire, pourquoi pas. Mais quand il y en a un qui va partir, il vendra à qui il veut. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça mettra... tout en l'air, voilà.
Que ce soit l'association, on peut avoir ce problème.
Mais là, ce dont on parle, c'est pas des associations. Puis dans les associations, enfin, à la limite, je dirais, là, dans les projets dont on parle, c'est des gens qui partagent des valeurs communes et qui se choisissent pour ça.
Dès qu'on a la moitié qui aura disparu, il y a d'autres personnes qui auront pris la place et qui géreront.
Non, parce qu'il y a des chartes. Petit à petit, elles rentrent, elles signent la charte, elles savent dans quel projet... elle rentre. Non, il y a.
On ne peut pas le faire dans une association ou en tant que copropriétaire.
Non, on ne peut pas parce que la liberté, le propriétaire, il vend à qui il veut. Personne ne peut s'opposer à ça.
On peut imposer des règles de vie commerciale.
Bah non, c'est impossible. Enfin, s'il y a des règlements de copropriété qui font que il faut respecter les espaces collectifs, que il faut pas mettre son vélo je sais pas où, que voilà, pour des choses de ce type-là, il y a un règlement de copropriété. Par contre, sur on va partager, on va par exemple chacun son tour, mettons, je dis n'importe quoi, mais faire le ménage dans la cage d'escalier par exemple. Si un nouveau propriétaire décide qu'il ne le fera pas, il ne le fera pas, point, et personne ne pourra l'obliger à le faire.
Merci.
Léna. Oui.
Ma propre expérience, une coopérative d'habitation à Berlin, c'est dire que, justement, que c'est une que ce n'est pas une propriété, non. Que c'est qu'avec ta adhésion à cette coopérative, tu as un droit d'y vivre, un droit du sage, mais ce n'est pas à toi.
Oui.
Et ça, c'est bien, parce que ça évite tous ces petits bagarres entre propriétaires. Les uns laissent les chaussures devant la porte, les autres, ça se merde. Et les uns peignent leur volet en bleu, ça ne plaît pas à ceux qui ont peint leur volet en rouge. Tout ça, il n'y a pas cette notion de propriété.
Ouais.
Moi, c'est moi. Ça n'existe pas, et ça c'est bien. On a acheté avec l'aide d'une coopérative qui existait déjà un grand immeuble, je crois elle, qui était d'abord utilisé comme asile pour des femmes sans logement. Elle était vide, cette maison était vide pendant 3 ans et le quartier était obligé de le vendre. Et c'est avec l'aide d'une coopérative qui existait déjà, on a acheté cet immeuble et on a créé 20 appartements de tailles différentes. Et comme ça, il y a des gens qui ont habité avec leurs enfants, autres qui ont vécu en colocation, d'autres qui étaient avec des femmes qui sont mariées avec enfants, un couple homo, on avait tout là-dedans. 51 personnes au départ. Il y a quelques jeunes qui sont partis parce qu'ils font leurs études ailleurs. Et des adultes qui ont commencé à vivre ensemble là-dedans. Il y a 5 ans, il n'y a que 2 qui sont partis, il y a 1, c'est moi. C'est vraiment une communauté qui est super stable, qui s'est cherchée entre eux. Et il n'y a que 2 choses qu'il faut tenir. Il a quand même fallu mettre 150 euros par mètre carré sur la table pour devenir membre de cette coopérative. Et on peut s'imaginer 15 000 euros pour un grand appartement, c'est pas pour tout le monde. Voilà. C'est pour ma copine qui habitait avec moi, c'est moi qui ai mis les sous sur la table. Parce qu'elle, elle n'aurait jamais pu. C'est là un des problèmes avec ces coopératives. C'est quand même quelque chose pour les gens qui ont besoin. Quoi. Même si c'est beaucoup moins qu'une maison à acheter à 100 000. Et l'autre problème, c'était on a eu 3 de chats. Il y avait des gens qui avaient des chats, d'autres qui avaient des chattes. Et vous assumez, comme ça, ça ne va pas.
Oui, peut-être qu'on va arrêter là. Et là, elle peut répondre par rapport à la coopérative chère. Et puis ensuite, on arrêtera là parce que, à moins que vous ayez encore 2-3 choses à dire, et on vous raccompagnera. Parce que bon, la soirée s'avance. Alors vas-y, juste la réponse.
Je voulais juste dire, c'est la différence entre le système allemand et français. C'est qu'en fait, en Allemagne, d'abord, c'est très décentralisé par rapport à nous, c'est le contraire. Mais en plus, ils ont compris que c'était l'intérêt collectif que d'aider les groupes à s'organiser en coopérative. Et donc, il y a des aides carrément de la collectivité territoriale pour aider les groupes à s'organiser, à faire leurs projets, à monter leurs projets. Et parce que de toute façon, ils ont constaté que ça coûtait moins cher finalement à la collectivité que de faire ça. Et en plus, le résultat était beaucoup plus stable parce qu'il n'y a pas de turnover comme nous on trouve dans les logements sociaux souvent. Là, les gens, ils ont fait, c'est leur projet, ils sont là, ils y restent. Et s'ils sont remplacés, ils sont remplacés par des gens qui sont dans la même. Et en plus, du coup, comme il y a plein de coopératives, on sort d'une coopérative, si on veut, on va dans une autre. Et les coopératives peuvent s'aider entre elles, c'est ce qu'elle expliquait. Et nous, c'est à ça qu'on aimerait bien arriver, mais bon, on a du pain sur la planche quand même.
C'est la solution. Ouais. Et après, il faut faire attention. Moi, j'ai entendu il y a un an, Roselyne Bachelot qui disait clairement oui, venez les familles, faites les toilettes des personnes, hein, allez-y. Hein.
Ah ben oui, oui.
Mais je pense pas qu'elle ait le même contenu, vous voyez, derrière, les mêmes valeurs. Qui...
Bon.
Juste pour préciser, donc tu as parlé de l'exposition photo qui est là, donc on vous invite à la regarder. Et moi je remercie particulièrement Marie-Pierre et Nadia qui avaient en fait proposé cette initiative. Au départ, j'étais pas très motivée parce que je savais qu'on allait s'engager dans une disponibilité assez, enfin, il fallait être présent. Mais par contre, ça a été très très enrichissant parce qu'on a découvert des gens. On a découvert des personnes avec qui on a partagé des moments ensemble, mais là c'était encore plus fantastique.
Des personnes que toi-même professionnellement voilà, t'avais côtoyées, mais que tu les avais pas rencontrées de la même façon.
Donc je voudrais dire, puisqu'il y a le directeur ici, que ce genre d'initiative, mais il faut le renouveler parce qu'on s'aperçoit réellement, enfin vraiment que l'envie d'ouvrir les portes de la maison de retraite, ben, c'est un moyen. Voilà, il y a un échange qui peut se créer. Et puis de rencontrer des personnes qui ont 90, 92 ans, elles ont énormément de choses à nous apprendre. Et la vieillesse, c'est ça aussi. Je vous invite à lire le texte qu'a écrit une de ces personnes, Madame Locheneux, qui en dit long sur
Il est suspendu, qui tournoie là-bas, voilà. Et il est à côté,
la
effectivement.
Pour beaucoup de personnes de cet âge-là, et qui nous en fait la vie, quoi. C'est très bien. Merci à Julia.
Je peux arranger.
Oui. Ouais, Nadia qui a participé.
Moi, je voulais remercier toutes les résidents de la maison de retraite de Valfleury qui ont la gentillesse de nous accueillir. Enfin, toutes les personnes qui sont là et qui ont participé au reportage et à l'exposition photo avec nous. Enfin, c'était sous forme d'atelier, de reportage photo, un mix entre les deux. Et donc, elles se sont dévoilées. C'était super pour nous parce que ça a permis de faire avancer un petit peu les choses. Et moi, c'était un sujet que je ne connais pas beaucoup, on va dire. Enfin, moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Des gens super émouvants. Voilà. Et si vous avez l'occasion de regarder l'expo, ça vaut le coup parce que voilà, c'est des petites tranches de vie. Et c'est un beau témoignage.
Oui,
il faut multiplier ces initiatives. Bravo, merci et bravo parce que vous avez un résultat. Je rappelle la première réunion.
Que pas la... Nous, que nous, finalement,
je suis d'accord. Moi, je les remercie. Je peux les remercier tous les jours. Je les vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est rappelez-vous la première réunion, Martin et Jean, Ginette, où on a fait le truc. On a les quatre. Après, il y a eu un. Et puis la réunion, on se dit, vu les photos, donc tout ça. Puis ce soir, on a 10 personnes qui sont venues, sur 80, c'est pas mal. Et puis si vous voulez continuer l'échange avec eux, sachez que le Valfleury, c'est une maison ouverte. Il y a deux portes, les portes où vous pouvez rentrer. Il y a un parc sympa aussi, quand il fait chaud, on trouve de l'ombre. Il y a une belle vue sur Panate. Et c'est ouvert au public. C'est ouvert au public. Et voilà.
Voilà, bon, place maintenant au bar et à la bibliographie. Et ensuite...